Les nuits de France Culture.
Dans la grande ville de Paris.
Dans la grande ville de Paris.
Il y a des bourgeois bien nourris.
Il y a des bourgeois bien nourris.
Il y a les miséreux qui ont le ventre creux. Ceux-là ont les dents longues.
Vive le son, vive le son.
Dans les années 1880 et 1890, l'Europe et la France vivent au rythme des actions et des violences des mouvements anarchistes. Plusieurs épisodes marquent les esprits. Les attentats à la bombe de Ravachol, bien sûr. L'attentat aussi d'Auguste Vaillant à la Chambre des députés en 1893. Enfin, l'assassinat du président Sadi Carnot par l'anarchiste italien Sante Geronimo Caserio en 1894. Ces épisodes sont bien connus, mais ils sont loin évidemment de résumer la complexité du mouvement anarchiste de cette fin du XIXe siècle. En 1950, l'historien Jean Métron consacre précisément sa thèse de doctorat à l'histoire de ce mouvement et il en découvre une figure oubliée, celle de Paul Delesalles. Ouvrier, ajusteur mécanicien, libraire, auteur de très nombreux textes militants, Delesalles fut aussi accusé, mais après sa mort, d'avoir participé à un attentat contre un restaurant en 1894. Accusation infondée, dit Jean Métron, dont l'intime conviction semble s'être forgée au contact de Paul Delesalles lui-même dans les derniers temps de sa vie. Jean Métron qui s'exprime dans ce numéro des Inconnus de l'Histoire, premier temps d'une série de trois au micro de Jean Montalbetti.
Unknown people in history.
Disconosciuti nella storia.
La storia dos desconocidos.
Unbekannte der Geschichte.
L'uomo non si rende
The unknowns of history.
Les inconnus de l'histoire. Enquête sur un ouvrier anarchiste à l'époque de Ravachol. Paul Delesalles par Jean Montalbetti. Médiateur Jean Métron avec la voix de Michel Creton. Dans une réalisation de Daniel Fontanarosa.
Tu veux bâtir des cités idéales, détruis d'abord les monstruosités. Gouvernement, caserne, cathédrale, qui sont pour nous autant d'absurdités. Dès aujourd'hui, vivons le communisme, ne nous groupons que par affinité. Notre bonheur naîtra de l'altruisme. Que nos désirs soient des réalités. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher.
Jean Métron, historien du mouvement ouvrier français, vous avez consacré probablement un quart de siècle, 25 ans de votre vie, à la réalisation d'un immense travail qui est le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier. Donc, un grand nombre de visages, de personnalités dont vous avez retrouvé la trace, mais pour beaucoup d'entre eux, ce sont des visages que vous n'avez pas connus. Par contre, vous avez choisi l'un de ces responsables du mouvement ouvrier français parce que vous l'avez rencontré, vous l'avez connu et vous avez admiré également sa participation à cette histoire du syndicalisme.
Oui, en réalité, je dirais que je les aime tous, n'est-ce pas ? Et j'ai du mal à me figurer que je ne les ai pas connus.
Vous en avez connu tout de même beaucoup.
J'en ai connu beaucoup.
Vous avez vous-même milité dans ces mouvements, lesquels ?
Oui. Ben d'abord, je vis sur une ascendance, n'est-ce pas ? Mon grand-père, Simon Métron, était communard. Il a même déserté à ce moment-là pour ne pas avoir à combattre dans les rangs de l'armée tiers. Et il n'est revenu de Suisse que lorsque les choses se sont tassées et qu'il a pu rentrer impunément.
10 ans après.
Oui, mais il avait été quand même militant actif, n'est-ce pas ? Par la suite, il fut d'ailleurs un républicain libre-penseur. Mon père aussi a été militant, militant syndicaliste, militant socialiste, militant communiste, puis-je dire, en fait, un vieil abonné de l'Humanité. Alors élevé dans ce milieu, marquée dès mes origines. Je me suis lancé, parce que moi-même je devais avoir le virus, n'est-ce pas ? Et dès mon plus jeune âge, arrivé à Paris, si vous voulez, après mes études secondaires et mon internat au lycée de Nevers, j'ai adhéré tout d'abord aux étudiants qu'on appelait les gens de l'UFE, l'Union fédérale des étudiants, qui étaient pratiquement les étudiants communistes. Et j'ai adhéré aussitôt que possible au parti communiste lui-même. Mais je suis un contestataire. Je ne sais pas si c'est par atavisme que j'ai fait une thèse sur l'histoire du mouvement anarchiste, mais incontestablement, je suis libertaire de nature.
C'était mal vu, non ?
Oh, ça n'a
pas été. Au parti communiste ?
Ah ben, j'ai quitté. C'est-à-dire que je suis entré dans le parti communiste, j'ai immédiatement été contestataire, j'étais contre la tactique classe contre classe, contre la période sectaire, n'est-ce pas ? Et alors, on était quand même en pleine lutte antifasciste, et j'ai adhéré à ce moment-là, ce qui pouvait ne pas être très bien vu, j'ai adhéré à la Ligue trotskiste. Trotsky nous disant qu'il fallait faire contre Hitler, faire alliance avec le diable et sa grand-mère, ça m'avait séduit, j'avais 20 ans. Bon, faut excuser ce romantisme. Et j'ai donc milité à la Ligue pendant quelques temps, quelques années même, et puis j'ai réadhéré au Parti communiste, qui était quand même un comble, n'est-ce pas ? J'ai écrit au père Cachin en lui disant « Voilà, je viens de chez les trotskistes. » Vous voyez que j'étais nature. Hein ? Et je demande à réadhérer au Parti communiste. Il m'a dit « Écoutez, allez voir les secrétaires de Paris-Ville, à ce moment-là, qui était Chintron, qui a eu une histoire lui aussi, et Lampe, Maurice Lampe, qui m'ont dit « Écoute, mon vieux, tu es bien gentil, mais enfin, écris-nous quelque chose pour montrer que vraiment, tu en as terminé avec tes errements. »
Une autocritique.
Une autocritique, je l'ai faite aussi douce que possible parce que ce n'est pas mon genre. Mais enfin tout de même, j'ai réadhéré donc, c'était en 34, et j'ai milité pendant 5 ans au Parti communiste jusqu'en 39. Mais alors le pacte germano-soviétique, je n'ai pas pu l'admettre et j'ai quitté le parti à ce moment-là.
C'est intéressant que vous nous racontiez votre itinéraire, Jean Métron, parce que d'abord, comme historien de l'histoire sociale du XXe siècle, vous êtes un petit peu un cas particulier dans la mesure où, justement, vous avez connu les hommes sur le terrain.
Oui.
Et d'autre part, parce que le profil que vous nous donnez de vous-même, au fond, je lui trouve une parenté avec celui de l'homme que vous avez choisi d'évoquer, c'est-à-dire Paul Delsalle.
Oui, qui a subi un peu fréquenter tous ces sentiers.
Bien entendu, qui n'est pas de la même génération.
Oui, bien qu'il ne soit pas de la même
génération. Mais qui a eu des réactions un petit peu comparables.
Sans doute, oui. En tout cas, j'ai choisi comme sujet de thèse l'histoire du mouvement anarchiste, je l'ai toujours dit, par désespoir d'amour. M'étant permis de critiquer combien les anarchistes du temps ou au temps où j'étais communiste, n'est-ce pas, j'ai voulu les connaître. Parce qu'on critique évidemment sans savoir. Et donc je me suis lancé à corps perdu dans cette histoire du mouvement anarchiste. Et j'ai terminé avec ma thèse d'État en 1950. Et c'est en faisant ma thèse d'État que j'ai découvert ce militant d'importance secondaire, Paul Delsalle, mais que j'aurais bien voulu connaître. Et je pensais à ce moment-là qu'il était déjà mort, n'est-ce pas ? Il était né en 70, il pouvait très bien être mort à la période où j'étudiais en 45. Et c'est un jour, j'ai téléphoné, j'ai retrouvé, on parlait de lui dans un article d'un journal qui s'appelait France d'abord, je crois, c'était au lendemain de la Libération. Et j'ai téléphoné à la CGT et je suis tombé sur Paul Delanoux, qui était un militant communiste et syndicaliste, et qui est aussi instituteur, ce qui me permettait, ce qui est un trait d'union avec moi-même. Et je lui ai dit, voilà, je cherche Paul Delsalle, j'ai vu qu'on en parlait dans France d'abord, est-ce que vous pourriez m'indiquer s'il vit toujours et où il habite ? Il m'a dit, c'est facile, nous y allons cet après-midi. Et on t'emmène si tu veux. Eh bien, j'ai dit, pourquoi pas ? Et nous sommes partis à Palaiseau.
Alors, cette rencontre avec Paul Delsalle, donc, après la fin de la guerre, c'est un homme déjà très âgé. Comment est-ce que vous le voyez pour la première fois ?
Eh bien, pour la première fois, je le revois encore très précisément, voyez-vous. Un vieil homme.
Il a probablement 75 ans, quelque chose comme ça. Il va vivre encore 2-3 ans.
C'est cela. Il était en tenue négligée, plutôt sale, je dois le reconnaître, négligée, directement, mais chaleureux. Et immédiatement, il nous a accueillis les bras ouverts, j'ai sympathisé. Et puis il y avait non loin, toujours discrète, comme l'est souvent la femme du militant à cette époque et peut-être encore aujourd'hui, c'était Léona Delsalle. et qui elle aussi nous accueillit avec chaleur et avec amitié. Et cette amitié a duré une vingtaine d'années en ce qui me concerne.
Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher.
Ce Paul Delsalle, quelle est son origine et pourquoi, en 1945, le voyez-vous essentiellement comme un anarchiste? C'est-à-dire, pourquoi renvoyez-vous d'une certaine façon Paul Delsalle à son passé des années, disons, 1890?
Je ne le vois pas seulement comme anarchiste, n'est-ce pas? Je sais déjà qu'il a été syndicaliste révolutionnaire. Et je suis en contact depuis, au cours de ma thèse, avec des militants justement qui m'intriguent. Ce sont ces militants syndicalistes révolutionnaires, je veux dire cette équipe de Monnat, Rosmer, même Pouget, Griffule, etc., qui, venus de l'anarchisme, sont passés par le syndicalisme révolutionnaire et ont donné naissance souvent au Parti communiste. Par conséquent, je recherche Delsalle à un double point de vue, anarchiste certes, et syndicaliste révolutionnaire. Et je fais sa connaissance donc dans ce milieu de Palaiseau, dans cette petite maison qui est pour moi un émerveillement, parce que le père Delsalle immédiatement nous emmène dans sa bibliothèque, et sa bibliothèque c'est le grand lieu de la maison, c'est là qu'on reçoit vraiment les amis. Et je suis émerveillé par tout ce que j'aperçois, moi qui suis un historien, mais un chercheur, un amoureux d'archives. Et là, ces livres, ces brochures, ces collections de journaux, ces gravures, ces lithographies, ces médailles, que sais-je, me rendent fou.
Vous voulez dire qu'il a tout gardé, aussi bien que les activités des bourses du travail et de la CGT?
Il a tout gardé. Et alors, immédiatement, je lui dis... Si vous permettez, je ferai votre biographie.
Le milieu social dans lequel vivait Paul Delsalle, l'exploitation dont il se sentait victime à l'atelier, certaines fréquentations, l'absence de tout sentiment de résignation d'origine religieuse, toutes ces circonstances devaient favoriser chez cet adolescent, épris de justice, un esprit de révolte accusée. S'affranchir en affranchissant ses frères, tel fut l'idéal qui anima très tôt Paul Delsalle. S'il fut porté aux solutions extrêmes, cela s'explique aisément. On ne peut demander le sens de la mesure, de l'immédiatement réalisable, le goût des nuances à qui a le ventre vide. Pour raisonner juste, il faut ne pas avoir faim.
Paul Delsalle, qui va devenir un des responsables de la CGT, a cette particularité, c'est qu'il appartient à une famille ouvrière, à un milieu ouvrier, et à un milieu particulièrement pauvre.
Très pauvre. Très pauvre. Ils ne se sont pas étendus, mais vous en aurez des échos, sur cette jeunesse difficile. Il l'a écrit un jour dans une revue, « Je n'ai pas toujours mangé à ma faim ». Et j'ai supporté durant toute ma vie les conséquences de cette jeunesse difficile. La femme, Claire Colpin, je crois, femme de Victor Delsalle, le père, a élevé 4 enfants, Paul étant l'aîné.
Deux garçons et deux filles.
Deux garçons et deux filles. Le second, pour en dire un mot, le second c'était Émile. Émile a fait une carrière... Ils étaient tous de qualité. Il a fait du commerce. Et il s'est retiré à Genève et mort en 1928, les affaires faites. Et puis une sœur qui, comme la maman, sera couturière. Mais enfin, la maman était couturière à domicile, n'est-ce pas? Elle a levé surtout la nichée. Quant à l'autre fille, elle fut célèbre. C'est Mona Delsa. Je pense que Delsa, c'est une abréviation de Delsalle. C'est une comédienne. et une comédienne, une artiste, à l'élégance raffinée, comme on disait, qui avait sa photo, sa caricature sur les grands journaux de mode ou de comme ceux que nous connaissons aujourd'hui, n'est-ce pas ?
Et qui a eu beaucoup de succès dans les pièces de boulevard.
Grand succès.
Et la personnalité de son père ?
Il parle beaucoup de sa mère, très peu de son père. Et
pourtant, il a suivi ses traces.
Il a suivi ses traces. Non pas que le père l'ait influencé. Le père était apolitique et il s'est contenté de lui inculquer un athéisme passif, comme il me l'a dit un jour. C'est-à-dire
donc
que
il est plutôt anticlérical, anti-religieux, vraisemblablement.
Oui, a-religieux serait peut-être plus exact, n'est-ce pas ? Il n'avait pas de religion, il m'a dit « je m'en suis tiré comme cela », me dit Paul Delsal un jour.
Mais tout de même, l'enfance qu'il passe avec son père, qui est ouvrier, Delsal, né en 1870, est certainement très fortement imprégné des souvenirs de la commune, donc de cet anticléricalisme probablement très fort chez les communards. D'autant que son grand-père, c'est-à-dire le père de son père, était un communard.
Oui. Le dit-on, n'est-ce pas, une tradition de famille comme ça, parfois sans preuve, enfin je veux bien l'admettre, il serait mort au cours de la Semaine sanglante. Je veux surtout retenir que les échos qu'il eut de la commune, Paul, par l'intermédiaire de Denis Villeval et de l'oncle de ce Denis Villeval, qui lui aussi avait participé à la commune, le marquèrent très fortement. Et Paul n'eut de cesse d'avoir pénétré plus avant dans cette commune de Paris, qui lui était cher par l'intermédiaire de son camarade d'école, Denis Villeval. Mais sans cela, ce n'est pas le père lui-même qui l'influença sur ce point. Le père l'a beaucoup plus influencé en tant qu'ouvrier de qualité. C'est le père qui, ouvrier fraiseur dans la maison Fouché, je crois, le prit en apprentissage et lui apprit le métier et toutes les finesses du métier, et même devenu vieux, Paul me contait avec émotion l'apprentissage qu'il avait fait aux côtés de son père.
La durée de l'apprentissage variable, suivant les maisons, va de 3 à 5 années au maximum. La loi du 2 novembre 1892 a fixé l'âge d'entrée en apprentissage à 13 ans. Toutefois, les enfants ayant obtenu leur certificat d'études primaires peuvent être admis à 12 ans, à condition qu'ils soient munis d'un certificat de médecin, constatant que leur santé leur permet de supporter les fatigues du métier. L'enfant doit posséder un livret d'apprenti. Il est aussi d'usage que le patron et le représentant de l'enfant qui entre en apprentissage contractent un engagement qui stipule les conditions de cet apprentissage ainsi que les obligations des deux parties. La loi du 2 novembre 1892, ainsi que les heures d'entrée et de sortie des apprentis, doivent être affichées dans chaque atelier. Généralement, et surtout dans les petites maisons, la première année se passe en corvée et en course, ou à des travaux de peu d'importance. Les conditions du travail chez les ouvriers en instruments de précision.
Paul Delsal fait des études assez sommaires, assez rapides. Ce sont des études à l'école primaire dans le 14e arrondissement, dans l'école de la rue Boulard. Il passe son certificat d'études à 13 ans et donc il va connaître la filière commune dans le milieu ouvrier, c'est-à-dire la formation par l'apprentissage. Vous en faites, Jean Métron, une sorte un peu d'ouvrier modèle.
Je le crois. Je le crois parce qu'il était un ouvrier modèle du point de vue travail, mais il fut un ouvrier modèle en ce sens qu'il suivit les cours du soir. Et il n'eut de cesse de se cultiver alors qu'il savait très bien que sa culture, étant donné qu'il n'avait eu que le certificat d'études, était humble, modeste. Et je découvris, parce qu'il avait gardé tous les souvenirs de sa vie, vie militante ou autre, la médaille qu'il obtint en 1888, il avait donc 18 ans, décernée par la ville de Paris comme élève des cours du soir et ayant suivi avec succès ses cours, avec profit tout au moins.
Dans ces années 83-88, où il suit donc un apprentissage d'ouvrier, ajusteur, fraiseur, quelle est la condition de l'apprenti et quelles sont les conditions de travail?
Les conditions de travail sont dures. Et Paul les a comptées dans une, ce qui est devenu une brochure par la suite, conditions de travail dans les, chez les ouvriers en instruments de précision. Songez que de Le Salle, Paul, quand il parlait de son métier, de l'atelier, de son travail de salarié, disait le bagne. Et le bagne, pour lui, c'était quelque chose. Des journées de 11, 12 heures, des défenses de parler, défenses de faire circuler une motion de, ou un papier de souscription, ou des mesures aussi sévères que cela.
Des règlements qui étaient inscrits dans
l'atelier. Des règlements qui étaient inscrits. Et vous n'aviez le choix, ou accepter ou partir.
Vous pensez que c'est à partir des conditions de travail et de rémunération qu'il a vécu pendant ses années d'apprentissage que a pris naissance la révolte de Paul Del Salle?
Oui, il était un révolté, ça ne fait pas de doute. Et lorsque, par exemple, il s'en va sur le Trimard au bout d'un certain temps et va en Belgique, c'est là qu'il connaît Léona Del Salle, qui sera sa compagne toute sa vie durant. Je l'imagine très bien. Elle était fine, un teint mat qui rappelait une lointaine ascendance espagnole, des yeux brillants et une chevelure noire. Mon Del Salle fut subjugué et tomba amoureux fou de Léona et il resta amoureux toute sa vie. Puisque s'ils vécurent en union libre, à cette époque, c'était une tradition anarchiste. On vivait en union libre pour refuser l'État, pour refuser l'autorité.
Alors ça se passe dans les années 1892-93, et en fait il part parce qu'il est au chômage.
Il n'a plus de travail, il restera 2 ans sans travail, et puis c'est une tradition dans le mouvement ouvrier français à cette époque.
Le Tour de France.
Le Tour de France. Et on trimarde. Trimarder, c'est s'en aller le baluchon sur le dos, souvent...
À pied?
À pied, toujours à pied, le plus souvent à pied, parce qu'on n'a pas d'argent pour prendre le chemin de fer ou d'autres moyens de locomotion. Et on va de ville en ville. Et alors on est reçu par les camarades. Et on a du travail si cela se trouve. S'il n'y en a pas, eh bien on va dans une autre ville. Et on vit de peu. Et quand il sera à Lyon et qu'il visitera les riches appartements, comme il dit, des De Riclès, des De Chavannes, dont il a retenu les noms, il ne peut pas se retenir d'un sentiment de révolte.
Chez lesquels il fait quelques petits travaux d'électricité.
C'est cela. Et il n'avait jamais connu ces immeubles de grande classe, pourrait-on dire, où il comprend que la vie qu'il a connue, lui, n'est pas celle de tout le monde. Del Salle a eu toujours le sentiment très aigu de la justice sociale. Il a voulu la justice pour tous. Je ne crois pas qu'il ait voulu la haine.
Deux tactiques improprement appelées syndicalisme réformiste et syndicalisme révolutionnaire sont en présence. Le prolétariat économiquement organisé est appelé à se prononcer sans réticence. Ou laisser absorber le mouvement syndical par l'État bourgeois, réaliser par ce moyen la paix sociale, chère aux capitalistes, affirmer cette entente entre le capital et le travail que nos maîtres, et pour cause, appellent de tous leurs vœux. Et dans ce cas, aller collaborer dans les commissions mixtes, dans les conseils du travail, au Conseil supérieur du travail. Attendre des améliorations à notre sort de loi et de décret. J'ai tenté d'en démontrer la valeur préparée par ces divers organismes. D'autre part, créer une aristocratie syndicale. Un prolétariat privilégié de métiers, en antagonisme avec l'armée des sans-travail, des sans-métiers qui augmente chaque jour. Diviser ainsi le prolétariat en deux au profit de la bourgeoisie et par ce moyen prolonger la société capitaliste. En un mot, faire œuvre antisocialiste, antirévolutionnaire. Ou bien se tenir sur le terrain d'opposition irréductible. Faire que les syndicats restent des groupes d'opposition en face du patronat et de la société capitaliste, sans jamais les laisser absorber. organiser les travailleurs, les rendre chaque jour plus conscients en leur apprenant à ne compter que sur eux-mêmes, préparer l'union de toutes les forces ouvrières, sans distinction contre la classe bourgeoise tout entière. Pour cela, il faut éviter que le prolétariat ne passe de la forme d'oppression économique patronale dans la forme d'oppression économique étatiste. En résumé, nous voulons que les bénéficiaires actuels de la production soient remplacés par la communauté tout entière, organisés pour produire et pour répartir, et que, débarrassés de tous les parasites qui l'exploitent, ministres, prêtres, soldats, politiciens, s'instaurent sur des débris de la vieille société, la société vraiment libre et égalitaire que sera la société communiste. Les deux méthodes du syndicalisme.
Alors, ce sont des années clés dans la formation et dans la vie de Paul Delsalle. Sur le plan de son activité dans le mouvement anarchiste dans ces années 92-93, d'abord, quelle est à peu près l'importance du nombre des militants anarchistes en France à cette époque ?
Question difficile. Je n'ai jamais réussi, on pourrait me le reprocher à compter.
Il y a des rapports de police que vous avez consultés.
Eh oui,
même.
Mais bien sûr. Mais alors on baptise tout le monde anarchiste, comme en d'autres époques, on a baptisé tout le monde communiste ou résistant. Et par conséquent, se fier aux statistiques policières, pour l'historien, ce ne serait pas sérieux. Incontestablement, les anarchistes ont joué un très grand rôle. Mais on était anarchisants, plus qu'anarchistes. Quel est celui qui osera dénombrer les anarchistes? Parce que les anarchistes vivent sans carte, sans timbre. Il est curieux de découvrir que tous les socialistes étaient anarchisants. On était seulement libertaires. Mais ce qui nous renseigne également, c'est qu'il y a eu la grande période des attentats, 92-94.
Alors justement, dans ces années 92-94, il semble, peut-être à la faveur des attentats et des personnalités d'un certain nombre de ces anarchistes arrêtés, que le mouvement anarchiste se développe très très rapidement en quelques mois. Il y a deux chiffres que vous donnez, par exemple, l'un qui est d'avril 92, où le rapport de police indique que Delsalle est parmi les 100 et quelques militants que compte le parti anarchiste à Paris, et un chiffre un petit peu plus tard, fin 93, où un autre rapport de police indique que Delsalle est sur la liste des 663 anarchistes en région parisienne.
Oui. Lorsque le policier dit « Delsalle était parmi les plus représentatifs de la centaine d'anarchistes que comptait Paris à cette époque », je souscris, oui, je veux bien, c'est possible. Et effectivement, il fut arrêté, passa 18 jours à Mazas, je crois, en 1892, je crois.
Mais il est arrêté en avril 92.
Oui, avril 92. Il va rester 18 jours à Mazas. Mais lorsque, à une unité près, les policiers veulent dénombrer les anarchistes en France, cela prouve tout simplement quelqu'un qui ne connaît pas son métier.
Pour défendre les intérêts des flibustiers de la grande industrie, on nous ordonne d'être prêts à mourir pour notre patrie.
Nous ne possédons rien de rien, nous avons horreur de la guerre.
Voleurs, défendez votre bien, ce n'est pas à nous de le faire.
Église, parlement, capitalisme, état, magistrature, patron et gouvernant, libérons-nous de cette pourriture. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire. Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Jean Métron, à partir de 1892, les attentats vont se faire plus nombreux, plus grave et plus rapprochée. Il va donc y avoir une mobilisation des pouvoirs publics et de la police contre le mouvement anarchiste. Mais ces attentats ont commencé déjà il y a un certain nombre d'années, vers 1885. Et d'une manière générale, le terrorisme se développe comme expression politique. En Russie, par exemple, en 1888. Quelle est l'origine de la conjonction entre l'anarchisme et l'utilisation du terrorisme comme arme politique ?
Bon, je dirais que les attentats terroristes en France se sont développés en 92-94. Mais on avait développé la thèse de l'attentat depuis 1880. Or, ça n'a pas pris. Le peuple français, le peuple ouvrier français, était réfractaire à cette méthode que je qualifierais de suicidaire d'action. Et il résista jusqu'en 92. Et puis alors, pendant deux années, 92-94, pas après. Je dirais pourquoi. 92-94, il y a une accélération et sous deux aspects. D'abord, effectivement, dans les faits, les attentats se multiplient, mais deuxièmement, il y a tous ceux qu'on dénonce et qui ne se produisent jamais. Toutes les boîtes de sardines dans lesquelles on met un peu de poudre et avec une mèche et qui n'explosent pas et qui ne font aucun effet. Puis il y a tout simplement les lettres par centaines de milliers. Ça rappelle la résistance et l'occupation. Ces dénonciations, cette maladie de la dénonciation. Et à ce moment-là, on les trouve par milliers, et même plus, aux archives de la préfecture de police. J'ai été effrayé. Mais effectivement, il y a eu néanmoins des attentats spectaculaires, des attentats très graves. On ne les a pas tous découverts, il s'en faut. Et certains ont conduit aux exécutions qu'on connaît bien, de Ravachol, de Vaillant, qui lança donc une bombe à la Chambre des députés, de l'attentat de Émile Henry, ce magnifique militant qui a 20 ans, polytechnicien, pratiquement se suicida et on ne sait trop pourquoi. On erre encore en ce qui concerne les raisons profondes qui l'ont conduit à ces attentats suicides. Et puis Caserio qui poignarde le président Sadi Carnot. Mais c'est la fin. Il n'y aura plus d'attentats. Les poursuites se multiplient. Les anarchistes les plus militants, je prends comme exemple Pouget, Émile Pouget, file à l'étranger et Pouget, en Angleterre, apprend ce qu'est le syndicalisme et comment le syndicalisme ouvrier peut remplacer avantageusement l'acte terroriste.
Il y a quelques figures tout de même dans ce mouvement anarchiste, parmi les gens qui commettent des attentats, qui deviennent des figures un petit peu mythiques, un peu des modèles tout de même. Ravachol, qui commet plusieurs attentats à la suite au printemps de 92, est un peu un héros pour les jeunes anarchistes comme Delsalle tout de même.
Je dirais que Ravachol est resté une grande figure, pour moi aussi, si vous voulez. En tant que symbole, en tant que mythe.
Il semble avoir retourné le jury lors de son premier procès en
assises. Oui, on avait peur aussi. Il faisait peur. Et j'ai bien dit qu'un juré avait filé par la porte le plus vite possible parce qu'il craignait le jugement qu'il rendrait, la condamnation qu'il prononcerait. Étant donné qu'à cette époque, on ne tient pas du tout à vivre à côté d'anarchistes, qu'on les craint, on les redoute et qu'effectivement, les attentats sont en même nombreux.
Jean Métron, après les attentats de Ravachol, d'Auguste Vaillant, l'exécution de Ravachol, et puis le dernier qui va intervenir en juin 1994, c'est-à-dire l'assassinat du président Sadi Carnot à Lyon par Caserio, il y a un attentat qui est resté mystérieux. C'est celui qui va se produire le 4 avril 1894, vers 20h30, le soir, dans un restaurant fameux qui se trouve en face du Jardin du Luxembourg et du Sénat, au coin de la rue de Tournon et de la rue Vaugirard, qui n'existe plus aujourd'hui, et qui est le restaurant Foyot.
Oui.
Là, il y a une bombe qui est déposée par une main anonyme au bord de la fenêtre et qui explose, blessant tout de même assez grièvement un poète, le poète Laurent Taillade, qui va perdre un œil dans cet attentat.
Qui va perdre un œil.
Alors,
et mon pauvre Delsalle va être accusé.
Delsalle semble
était-il
être le suspect
l'auteur.
Numéro un.
Oui.
Pourquoi ?
Ben c'est toute une histoire. Delsalle, donc, va être accusé le jour, si je puis dire, le jour de l'incinération. après sa mort, donc. Delsalle est incinéré, je suis là, au Père-Lachaise. Il y a des discours, on ne parle pas, évidemment, d'un attentat. On ne rappelle pas l'attentat Foyot, on n'aurait aucune raison de le rappeler. Mais ce jour-là, dans l'ordre, le journal de Buret paraît un article de Maître Zévaès où il dit « L'auteur de l'attentat Foyot, on peut le dire aujourd'hui, c'était Paul Delsalle. »
Or, Maître Zévaès est un ancien anarchiste, à peu près de la même génération, du même âge que Delsalle, et l'un de ses amis proches.
L'un de ses amis, oui. Enfin, d'une de ses fréquentations.
Donc, dans les années 1890.
C'est ça. Et Maître Zévaès, qui déjà, en 1937, donc bien avant dans l'œuvre, avait écrit un article le jour où Foyot, je crois, disparaissait en tant que restaurant. Et il dit...
La vie sans histoire et sans bruit du restaurant Foyot fut troublée en avril 1894 par les éclats d'une bombe anarchiste. C'était au cours de la période tragique du mouvement libertaire. 4 mois à peine après l'attentat d'Auguste Vaillant au Palais Bourbon, 2 mois après celui d'Émile Henry au Café Terminus. Vers 8h30 du soir, un jeune compagnon lança une bombe contre le restaurant de la rue de Tournon. Précisément ce soir-là, y dînait le poète Laurent Taillade en compagnie d'une de ses amies, une brune et charmante bourbonnaise, Julia Mial. À peine venait-il de s'installer que l'engin était déposé sur le rebord de la fenêtre. Dès qu'il se rendit compte de l'explosion, Laurent Taillade se leva pour protéger la personne qui l'accompagnait et lui faisait vis-à-vis, ce qui explique qu'elle en fut quitte pour quelques égratignures sans gravité, tandis que lui-même était horriblement mutilé à la face et devait perdre un œil. C'était le jeune Delsalle, passionné, féru d'anarchisme et de propagande par le fait qui avait lancé l'engin et qui fut profondément navré quand il sut que la seule victime était un poète qu'il admirait fort. Alexandre Zévaès.
Léonard réagit le soir même. Buret, qui lui aussi avait été mêlé à tous ces milieux autrefois, était quand même qui était directeur de l'ordre, était, je ne dirais pas un ami, mais quelqu'un qu'on connaissait bien. Léonard écrit à Monsieur Buret.
Cher Monsieur Buret, je vous remercie d'avoir publié ma lettre rectificative. Maître Zévaès persiste à croire que mon mari fut l'auteur de l'attentat Foyot. Je donne ma parole d'honneur et je certifie que le 4 avril 1894, jour de l'attentat, je suis demeuré en compagnie de Paul Delsalle de 13h30 à 20h30 environ et que de ce fait, il n'a pu en quoi que ce soit y participer. Je vous serai reconnaissante de faire paraître ces quelques lignes qui seront les dernières afin que vos lecteurs soient informés que je maintiens intégralement mes affirmations. Croyez, cher monsieur Buret, à mes sentiments les meilleurs. Veuve Delsalle.
C'est moi qui ai mené l'enquête à partir de ce moment. Et je dis, j'écris à Maître Zévaès, et je lui dis, pouvez-vous me dire en quels termes Paul vous a retracé cette histoire du Foyot? Et il me dit, le soir même, il est venu me trouver et m'a dit combien il craignait les... histoires, combien il craignait d'être suspecté, d'être arrêté. Mais c'était insuffisant. La seule réponse valable, c'était une parole de Delsalle. J'étais, je fus, c'est moi qui avait déposé la bombe du Foyot. Et ces mots, Delsalle ne les a pas prononcés. Et puis, Léona, qui était à ce moment-là à l'hôpital Laennec, me prit immédiatement en charge. Il me dit, écoutez, je tiens, alors que le silence avait été observé sur ces histoires de propagande par le feu autrefois, je tiens à vous conter par le menu l'histoire de ces journées d'avril 1894. Jeune fille, âgée de 20 ans, amoureuse de Paul, ils s'étaient rencontrés ce jour même de l'attentat Foyot, alors qu'il devait aller travailler, il avait séché l'atelier. Et elle avait probablement séché aussi la maison de couture où elle travaillait. Et elle aimait Paul en secret, dirais-je, puisque son père lui avait dit « Pour toi, il n'y aura jamais de 21 ans ». Jamais, autrement dit, jamais tu ne seras majeur, jamais tu n'épouseras un anarchiste. Et Léona, qui aimait Paul, a donc débauché Paul ce jour-là. Et ils ont flâné en amoureux toute l'après-midi. Et puis le soir venu, il l'a raccompagnée jusqu'au tramway, je ne sais plus, Montrouge, où elle devait se rendre. Et au moment où ils se quittaient, ils ont entendu le bruit d'une explosion. Ils ont compris aussitôt, il y avait des explosions tous les jours. Et comme il était mêlé aux milieux anarchistes, il est certain que n'étant pas au travail, il pouvait être suspecté. Et Léona me fit le récit suivant. Pendant 8 jours, 10 jours, nous vécûmes lamentablement Paul et moi. Je m'en voulais, j'étais prêt à me dénoncer, j'étais prêt à tout conter au juge, voir tout, me justifier auprès de mon père. Bref, Paul n'osait plus rentrer chez lui. Parce que chez lui, il faut dire que Paul, prévoyant son installation ultérieure avec Léona, s'était mis au travail en électricité, avait accumulé notamment une masse de fils, de bobines de toute nature, pour ensuite se mettre peut-être à son compte. Et il n'osait plus revenir à la maison. Jusqu'au jour où sa mère vint lui dire « Mais Paul, retourne chez toi. Sais-tu qu'on te dévalise? C'est quelqu'un qui te touche de près. Qui était-ce? Je n'ai pas eu la cruauté de demander à Léona. »
Un membre de sa famille, dites-vous.
Un membre de sa famille qui le touchait de près. Et effectivement, on est venu déménager tous les fils, les bobines, les produits de toutes sortes et vendre ça au plus offrant et faire la noce dans les caveaux du quartier latin. Paul était fou. Paul fit ses caveaux du quartier latin ce soir même, trouva le parent en question, lui administra une correction dont il dut se souvenir longtemps et réintégra son logis, pensant bien que désormais il n'était plus en péril, parce que le parent en question non seulement avait dévalisé la chambre de Paul, mais sans doute très parent avec lui avait pu lui dire « Surtout ne retourne pas dans ta chambre, j'ai été interrogé par le juge d'instruction, on te soupçonne fort et si tu reviens c'est l'arrestation ».
Jean Métron, on sent toute la passion que vous avez mis à être l'avocat de la défense dans les pièces que vous apportez dans votre biographie pour, d'une certaine façon, innocenter totalement Del Salle. La version de Madame Del Salle est une très belle version et, après tout, c'est peut-être la vérité. Malgré tout, en avril 94, Del Salle est un militant anarchiste tout à fait fanatique. Il est en rapport avec les milieux qui pratiquent ces attentats. D'autre part, le matériel dont il dispose peut en faire très bien un fabricant également de bombes. Vous ne pensez pas qu'il était très proche de ces militants anarchistes qui, en 92-94, ont commis précisément ces attentats, c'est-à-dire qui étaient en révolte absolue contre la société?
Oui, Paul était en révolte contre la société, c'est exact, c'est certain, les preuves abondent. Mais j'ai deux raisons de penser au moins que Paul n'est pas l'auteur de l'attentat. La première, c'est que 8 jours plus tard, après avoir réintégré sa chambre, ils vont s'offrir à déjeuner chez la maman d'Émile Henry, qui tient une auberge. Émile Henry vient d'être exécuté. Et ils vont déjeuner là. Ce serait notoirement imprudent si Paul était l'auteur de l'attentat.
Oui, mais enfin, ce qui prouve donc un rapport étroit avec un terroriste.
Bien sûr, une admiration pour Émile Henry. Émile Henry, je l'aime moi aussi. Et je regrette qu'il ait été dévoyé par cette propagande terroriste, alors qu'il était un magnifique étudiant. Il avait été reçu à l'école polytechnique, admissible. Il faut voir, j'avais retrouvé à l'école Jean-Baptiste C prix qu'il a obtenus en fin d'année, dans toutes les classes qui ont été les siennes. Par conséquent, c'était un enfant au brillant avenir et qui a été sacrifié à une cause, la cause des attentats, qui ne le méritait pas. C'est pourquoi je dis qu'en 1983, comme en 1894, le mystère de l'attentat Foyot demeure entier.
Malgré le droit, contre toute injustice, ils ont dressé le sinistre échafaud. Elle est debout, la sanglante machine, et l'on attend que la main des bourreaux vienne trancher la sublime existence du compagnon que nous pleurons tout bas. Le ravachol qui souriant d'avance, en les narguant gaiement va au trépas. De Montbrison, gardons la souvenance, il est tombé martyr de nos idées. Le jour viendra, nous avons l'espérance, oui, Ravachol, nous saurons te venger. Oui, Ravachol, nous saurons te venger. Ils étaient là pour accomplir leur crime, les descendants des bandits versaillais. Pâles et tremblants, à la face jaunie, à Montbrison, comme étant leur forfait. Je te salue, ô compagnon sublime, qui fit trembler les tyrans aux abois. Ton souvenir reste dans nos poitrines, ton nom gravé en lettres de combat. De Montbrison, gardons la souvenance, il est tombé martyr de nos idées. Le jour viendra, nous avons l'espérance, oui, Ravachol, nous saurons te venger. Oui, Ravachol, nous saurons te venger. Sur ton tombeau, que le vent de la guerre souffle terrible, que les clameurs du sang fassent surgir devant leurs yeux son spectre. En l'évoquant, nous serrerons nos rangs. Brisons partout leur pouvoir despotique, les assassins par nous seront remis. À l'avenir, nous prendrons pour devise: vive Ravachol et vive l'anarchie. De Montbrison, gardons la souvenance, il est tombé martyr de nos idées. Le jour viendra, nous avons l'espérance, oui, Ravachol, nous saurons te venger. Oui, Ravachol, nous saurons te venger. Oui, Ravachol, nous saurons te venger.
À travers les rapports de la police, Jean Métron, on s'aperçoit que la police et donc le gouvernement étaient très attentifs à l'existence de ce mouvement anarchiste en France, probablement très inquiets par le développement des attentats et par la révolte de plus en plus importante de l'opinion publique contre des actes terroristes. Quelle a été la répression qui s'est développée dans ces années 90 contre le mouvement anarchiste en France ?
Ben, disons qu'on a voté les lois scélérates à cette époque et qu'on a utilisé jusqu'à nos jours. Et parfois, au grand dam, n'est-ce pas, de ceux qui en étaient la victime, ils n'étaient plus des anarchistes, mais souvent des communistes qu'on accusait, ils étaient condamnés en vertu de ces lois scélérates, c'est-à-dire pour propagande anarchiste, n'est-ce pas ? Acte de propagande antimilitariste et anarchiste, je ne reconnais plus, je ne me souviens plus de la formule. Mais, étant donné qu'ils étaient les ennemis numéro un des anarchistes, très hostiles en tout cas, au mouvement anarchiste, ils étaient très fâchés d'être condamnés en tant que propagandiste anarchiste. Quoi qu'il en soit, il est certain que la société et les défenseurs de la société, c'est-à-dire la justice, le gouvernement, les chambres, tout ce qu'on fait, tout l'appareil de répression, n'eut de cesse d'avoir mis à raison le mouvement anarchiste dans la mesure où le mouvement anarchiste s'identifiait avec le terrorisme. Je relève dans les années 92, donc 94, une série, je vois 11 mars, 15 mars, 27 mars, 25 avril, 11 juillet, c'est l'exécution de Ravachol, mais il y a une explosion en avril qui a fait 2 morts au restaurant Véry.
Oui, et on avait ce mot. La vengeance.
La vengeance.
De l'arrestation de Ravachol.
De la répression de Ravachol.
Et le propriétaire du café où il a été arrêté, Véry, a été tué dans cet attentat.
Tué dans cet attentat. Et alors on parlait de vérification. C'était un mot sinistre, mais cet esprit n'aurait pas dû s'exercer en l'occurrence. Mais en 93, c'est la même chose. Et 5 morts à l'explosion de la rue des Bons-Enfants. La bombe est transportée dans un commissariat de police et les effets sont terribles. Puis c'est le crime de Léotier le 13 novembre. C'est l'explosion au Palais Bourbon le 9 décembre. Alors quand on touche au Palais Bourbon, disons que les députés se trouvent immédiatement visés.
Et donc le pouvoir politique.
Bien sûr. Et alors il faut comprendre, là, l'exécution de Vaillant a été immédiate. Il a été exécuté le 5 février, donc du 9 décembre 93 au 5 février, c'est du rapide. Or Vaillant, comme il l'expliqua honnêtement, il ne voulait blesser mais il ne voulait pas tuer. Il avait mis des clous, mais il n'avait pas mis une bombe véritable, des explosifs. Et pourtant, alors là, il n'a pas de pardon, et il fut guillotiné. Alors que, toute une campagne de presse avait été menée en sa faveur, et que personne n'osa, ni le président de la République, ni qui que ce soit, il n'y eut guère que l'abbé Lemire, je crois, et quelques-uns, pour demander la grâce de Vaillant. Mais Vaillant fut exécuté.
C'est ce qui explique que de la part d'un militant comme Paul Delsalle, probablement la panique qui le prend après l'explosion de la bombe du restaurant Foyot, dans la mesure où des arrestations et la répression ont suivi justement cette vague d'attentats.
Bien sûr, bien sûr. Et on peut se poser la question pourquoi cette succession d'attentats. Il suffit d'une bombe. Et c'est la première, ça a été les crimes, faut bien les appeler par leur nom, de Ravachol, qui ont déterminé la série d'attentats, de ces attentats qui ont duré 2 ans. Mais 2 ans qui ont été faits d'admiration, si vous voulez, mais en même temps de crainte, pour en ce qui concerne les anarchistes, et de réprobation aussi, et notamment en ce qui concerne les derniers, ceux d'Henri, qui était gratuit, et qui lançait sa bombe au café Terminus, parce qu'il estimait que le moindre petit bourgeois, il ne s'agissait pas de grands capitalistes, il s'agissait d'hommes de la rue, tuer n'importe qui, parce qu'il les estimait plus lâches encore que les gros bourgeois, les grands bourgeois, ou les grands capitalistes.
Oui, crime crapuleux de Ravachol, on dirait aujourd'hui crime crapuleux, puisqu'il assassine des vieillards, des petits rentiers pour leur voler un peu d'argent, quelquefois des sommes dérisoires.
Oui, mais il faut connaître cette vie misérable de l'enfant qui a 4 ans à 5 ans, je dirais presque ravitailler la famille, procurer du charbon, voler pour qu'on puisse manger le soir. Une situation absolument misérable, mais d'une misère qui, je crois pouvoir le dire, n'existe plus aujourd'hui, ou dans des cas rarissimes.
Et qu'a connu en partie Delsalle ?
Delsalle l'a connu, moindre, parce qu'il vivait dans une famille ouvrière, et où par conséquent il y avait un budget. Et on vivait en tenant compte de ce budget, mais il était maigre. En ce qui concerne ces anarchistes, il y a eu un phénomène d'engrenage après Ravachol. Il faut comprendre Ravachol, je crois au départ. Puis il y a phénomène d'engrenage. On a lancé des bombes après pour venger Ravachol. Et puis on a lancé des bombes pour venger Henri, puis pour venger Vaillant, et ça n'en finit pas. Jusqu'au jour où Caserio a donc poignardé le président de la République, Sadi Carnot, je dirais gratuitement. Et Sadi Carnot n'était pas un malfaiteur. Et Caserio l'a poignardé, je dirais méchamment. Et bon, évidemment, il a été exécuté. Et les anarchistes qui contemplaient toute cette propagande, qui ne la comprenait pas et qui savait qu'elle ne conduisait à rien car toute la population était dressée contre eux. Il a fallu voir la révolte des Lyonnais lorsque Caserio poignarde Sadi Carnot. On saccage de toutes les boutiques des Italiens. Et par conséquent, ils savent très bien que sur le plan militant de la cause sociale, cela n'aboutit à rien. Et donc il va y avoir, je dirais, une révolte contre la révolte. Et c'est la cause essentielle pour laquelle les attentats ne furent pas, comme quelques-uns l'ont dit, un réveil dans le monde ouvrier, mais déterminèrent au contraire une volonté absolue de trouver un autre moyen de lutter pour la cause ouvrière contre les injustices sociales.
Lavoratori a voi diretto il canto di questa mia canzone che sa di pianto e che ricorda un baldo giovin forte che per amor di voi sfidò la morte a te Caserio.
Les inconnus de l'histoire enquêtent sur un ouvrier anarchiste à l'époque de Ravachol, Paul de Le Salle par Jean Montalbetti, médiateur Jean Métron, auteur du dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et de l'histoire de l'anarchisme en France. Les textes extraits de la biographie de Paul de Le Salle par Jean Métron et aussi des articles de Paul de Le Salle parus dans L'Ouvrier des Deux Mondes et dans Temps Nouveau ont été dits par Michel Creton. Parmi les documents sonores que vous avez pu entendre au cours de cette émission, une chanson sur Ravachol, composée par le poète Laurent Taillade, celui-là même qui a été blessé par la bombe du restaurant Foyot, et aussi, le dernier document, une complainte de Pietro Gori, célèbre anarchiste italien lui-même, sur Caserio, donc l'assassin du président Sadi Carnot à Lyon en juin 1894. Prise de son, Daniel Labigne. Mixage, Jean-Paul Herbert. Réalisation, Daniel Fontanarosa.
Dansons la Ravachol, vive le son, vive le son. Dansons la Ravachol, vive le son, l'explosion.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 15 juillet 1983.